Mes chers amis, c'est toujours une très grande joie de vous retrouver. Et j'entre d'emblée dans le premier sujet que je veux traiter ce soir. Je vous invite à regarder un jeune enfant et sa mère. La mère sourit, l'enfant sourit. Heureux. Hausse-t-elle la voix ? Un sentiment de crainte se lit sur le visage de l'enfant. Lui manifeste-t-elle sa tendresse ? Le cœur du petit s'éveille. Il serait bien intéressant de considérer plus en détail le développement de la relation entre la mère et l'enfant. Et l'on verrait comment la personnalité de l'enfant se structure peu à peu en réagissant au comportement de sa mère qu'il aime. En revanche, si l'enfant a une mère indifférente, pauvre en amour, ou pire, égocentrique, captative, la personnalité de l'enfant ne connaîtra pas un essor normal. Se développeront en lui des sentiments de frustration, d'insécurité, de peur, d'avidité, d'agressivité. Et alors, l'enfant cherchera de fausses sécurités. Les fondations de son psychisme seront fragiles, perturbées. Et il y a bien des chances que 60 ans plus tard, l'homme en soit encore marqué. Je ne viens de recourir à ces considérations qu'à titre de comparaison et pour amorcer le sujet de ce soir, le premier sujet. De même que la personnalité de l'enfant se construit en réagissant au comportement de la mère, de même la personnalité de l'enfant de Dieu, du chrétien, se construit en réaction à ce qu'il découvre de Dieu, aux aspects du visage de Dieu, et non seulement au début, mais tout au long de son existence. Ce soir, nous allons considérer l'oraison comme l'heure privilégiée où l'enfant de Dieu découvre les différents aspects du visage de Dieu, réagit à ces aspects, et ainsi, peu à peu, structure sa personnalité spirituelle. Partons donc de la vérité fondamentale du christianisme. Et j'entends vérité au sens de réalité. Dieu est mon Père. Tous les chrétiens le savent, ils le disent, mais en fait, beaucoup s'égarent en deux attitudes fausses. Première erreur, certains ne retiennent de l'affirmation « Dieu est mon Père » que le deuxième terme « Père », comme s'il évacuait ou absorbait le premier terme « Dieu ». Et alors il glisse dans une religion sentimentale envers un super grand-père. Deuxième erreur, d'autres négligent le deuxième terme « Père » et ils ne voient que le Dieu plus ou moins terrifiant. Nous allons nous garder de ces deux erreurs et tour à tour, dans une première partie, nous essaierons d'entrevoir quelque chose de la divinité de Dieu et dans une deuxième partie, de sa paternité. Première partie, Dieu est Dieu. Le premier aspect du visage de Dieu, si je puis ainsi dire paradoxalement, c'est qu'il est inconnaissable. Notre Dieu, dit l'Écriture, est un Dieu caché. Il est mystère. Quand Moïse émerveillé par ce qui émanait de Dieu, lui dit « Oh, de grâce, montre-moi ton visage !» Dieu lui répond « Tu ne peux pas me voir. L'homme ne peut pas me voir et demeurer en vie. Quand je passerai devant toi, je te mettrai dans la fente du rocher, je t'abriterai de ma main durant mon passage, puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut pas le voir. » Lorsque l'homme pressent ce mystère impénétrable, l'homme est fasciné. Et sa réaction, c'est l'adoration. L'adoration par laquelle il confesse « Il y a Dieu, tu es le seul Dieu. » Le tout autre, celui devant qui il n'y a qu'à se taire et à adorer. Mais de ce Dieu inconnaissable et adorable, on peut découvrir quelques-uns de ses attributs, sa seigneurie, sa toute-puissance, sa sainteté, sa splendeur. Nous allons nous arrêter à chacun de ces aspects de son visage. C'est vrai qu'il dépasse infiniment notre entendement, toutefois, nous en pouvons percevoir quelque chose. Dieu est Seigneur. Ce terme de Seigneur retentit partout dans la Bible. Au commencement, rien n'était, tout fut par lui. Et nous savons que cette action créatrice ne se situe pas seulement à l'origine, elle se perpétue. La création, chaque créature ne dure dans l'existence que par une création continue. Si un instant cessait cette action créatrice, la création retomberait dans le néant. En présence de cette seigneurie de Dieu, l'homme se prosterne front contre terre. Non pas par peur, mais par besoin de se faire petit pour affirmer la grandeur divine. Saint Thomas d'Aquin écrivait « Considérant une telle altitude, on se ramasse, frissonnant dans sa propre petitesse. On a besoin de lui dire « Je t'appartiens, corps et âme. » Et dans cet aveu, ce n'est pas un sentiment d'humiliation qui s'exprime, mais une immense sécurité. On peut parler de crainte si l'on veut, mais à la condition de ne pas la confondre avec la peur, il s'agit d'une crainte révérentielle, d'un respect infini en présence de la densité de l'être de Dieu. L'aiguille aimantée s'affole devant le bloc magnétique. Un religieux que je connais bien, qui est un grand ami du Seigneur, me disait un jour, à la prière, quelquefois, j'en claquerai des dents. Ce Dieu Seigneur, tout-puissant Seigneur, est aussi le Dieu Saint. Tandis qu'un homme peut être puissant en même temps que misérable et bas, Dieu, lui, est tout à la fois grand Seigneur et infiniment saint. Ce mot saint qui a été banalisé exprime, quand il s'agit de Dieu, son excellence. Excellence aussi infinie que sa puissance. Il possède au suprême degré toutes les perfections imaginables. Devant son visage éblouissant de beauté, les anges que voyait Isaïe se voilaient les yeux, car l'incandescence de ce visage ne pouvait être supportée par leur regard. Et Isaïe lui-même, affronté à cette sainteté de Dieu, découvrait son impureté foncière. Il disait « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme impur, vivant au sein d'un peuple impur, et mes yeux ont vu le roi. » Dans la mesure où on découvre cette sainteté, par contraste, on se découvre pécheur. Mais en même temps, on apprend qu'il veut nous purifier. Je continue la lecture d'Isaïe. « L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise ardente. Il m'en toucha la bouche et dit, « Vois, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Aussi bien devant la sainteté de Dieu, c'est à la fois la confession de notre mal qui surgit dans notre cœur et le repentir et une confiance éperdue. Cette excellence, cette sainteté du souverain Seigneur rayonne comme rayonne du soleil la lumière et la chaleur. Et ce rayonnement, la Bible l'appelle la gloire de Dieu, la splendeur, la beauté de Dieu. On ne peut en supporter l'éclat, pas plus que de sa sainteté, mais on en découvre partout dans l'univers des reflets. Le psalmiste chantait « Qu'il est magnifique ton nom, Seigneur, dans tout l'univers ». Et cette contemplation des reflets de la beauté de Dieu tire de notre cœur l'admiration et la louange. Et si vous êtes familier de l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas ne pas avoir été frappé par la place extrême que tient la louange de Dieu dans les livres de l'Ancien Testament. Elle est un sentiment très pur. Très pure parce que elle est totalement désintéressée. Alors, je résume. En face de la transcendance de Dieu, l'homme réagit par l'adoration. En face de sa seigneurie, par l'aveu de sa dépendance et la crainte révérentielle. En face de sa sainteté, par le repentir et la confiance. En face de son excellence, de sa beauté, par l'admiration et la louange. Autant d'attitudes religieuses qui peu à peu s'enracinent en nous, se fortifient et qui forment l'homme religieux. Mais Jésus-Christ est venu et il nous a révélé que ce grand Dieu est notre Père. Et nous voici parvenus à la deuxième partie que je vous avais annoncée. Dieu est Dieu, mais aussi Dieu est Père. Non pas au sens métaphorique. Un homme qui adopte ses neveux devenus orphelins, même s'il les traite comme ses enfants, n'est pas leur père, mais reste leur oncle. Dieu n'est pas notre oncle. Ce n'est pas d'adoption qu'il s'agit. Par Jésus-Christ, Dieu nous communique son être, sa vie, et Saint Pierre a osé écrire « Nous sommes participants de la nature divine ». Alors, essayons d'épeler les richesses de cette paternité. Les attitudes que sa contemplation va susciter en nous ne feront pas s'évanouir les attitudes dont nous avons parlé précédemment, mais vont transfigurer ces attitudes que j'énumérais tout de suite, celles que nous avons peu à peu vues se préciser. Dieu est Père. Certains versets de l'Ancien Testament méritent d'être repris, mais avec une plénitude de sens insoupçonnée des anciens juifs. Écoutez le psaume. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour ceux qui le craignent. Et encore, le Seigneur reprend celui qu'il chérit comme un père son fils bien-aimé. Et cet admirable petit verset d'Isaïe, que je voudrais voir emporter par chacun de vous ce soir, au plus profond de son cœur. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix pour moi, et moi je t'aime. Et comme si la référence au cœur des pères de la terre ne suffisait pas aux écrivains sacrés, ils font appel au cœur des mères. Écoutez, comme celui que sa mère console, moi, ton Seigneur, je te consolerai. Et encore, une femme oublie-t-elle son petit enfant? Serait-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Eh bien, même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. Et je vous laisse le soin de rechercher les passages du Nouveau Testament plus connus qui nous parlent de cette paternité, de cette tendresse paternelle de Dieu. Alors, à cet amour à la fois paternel et maternel de Dieu, le croyant réagit par l'amour filial, un amour filial follement confiant. Dans le psaume 131, le croyant déjà réagissait ainsi. Je tiens mon âme en paix et en silence, comme un petit enfant tout contre sa mère, comme un petit enfant rassasié, telle est mon âme en moi. Mais cette réaction d'amour filial est fragile, il faut la cultiver. Que de fois on est tenté de penser « c'est trop beau pour être vrai ». Eh bien non. Avec Dieu, le plus beau, c'est le plus vraisemblable, toujours. Tenez, je vous cite ce texte que j'ai lu dans le journal d'un père de famille. C'est une petite parabole qui vraiment mérite de figurer à côté de celle de l'Évangile. Il pensait à son jeune garçon et il écrivait. Merci, mon petit homme. Je t'aide à apprendre les premières notions du catéchisme, mais toi, tu es pour moi à chaque instant une vivante parole de Dieu. Quand, jouant avec toi, je te mets debout sur une table et te dis « saute », tu t'élances dans un grand éclat de rire, tu sais bien que je t'attraperai au vol. Lorsque tu es couché, ce n'est plus ton éclat de rire que j'entends, mais la voix divine qui me dit « As-tu une foi semblable à celle de ce petit ? Que risques-tu ? Que crois-tu pouvoir risquer pour moi ? Et pourtant, mes bras sont tellement plus forts que les tiens. » Ne nous laissons pas aller à penser « c'est trop beau pour être vrai. » C'est vrai. Et ce Dieu Père est inépuisable en générosité. Alors, tout naturellement, l'enfant ose venir à ce Père, qu'il appelle d'ailleurs volontiers Père Tout-Puissant, pour lui exprimer ses demandes. Le Père du Ciel, plus encore que les Pères de la Terre, est impatient de combler son enfant. J'ai envie de vous lire ce passage d'une lettre de ce Père peu banal, grand chancelier d'Henri VIII en Angleterre, qui devait mourir martyr, Thomas More. Il écrit à sa fille « Tu me demandes de l'argent, ma chère enfant, avec trop de timidité et d'hésitation. Ton père, tu le sais bien, est toujours prêt à t'en donner, et d'autant plus que ta lettre mériterait, non pas de philippes d'or pour chaque ligne, comme le fit Alexandre pour les vers du poète Chérilus, mais, si ma bourse se mesurait à mes désirs, 2 onces d'or pour chaque syllabe. Pourtant, je t'envoie juste ce que tu me demandes. J'aurais bien ajouté quelque chose. Mais si j'aime donner, j'aime aussi beaucoup que ma fille chérie me demande gentiment comme elle sait le faire. Aussi, dépêche-toi de dépenser cet argent. Je suis certain que tu en feras bon emploi. Plus tôt tu reviendras à la charge et plus je serai content. Je ne vous dis pas nécessairement d'écrire ça à tous vos enfants, mais je vois là un petit reflet de l'étonnante générosité de Dieu. D'ailleurs, le Christ nous a mis sur la piste. Vous vous rappelez ce passage de saint Matthieu ? Si vous, père de la terre, tout méchant que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père du ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'en prient ? Alors on comprend pourquoi, chez les chrétiens, la prière de demande a une si grande importance. Encore que elle soit décriée parfois, mais par ceux qui n'en comprennent pas la signification. Elle signifie que le chrétien a une haute idée de l'amour de son Dieu. D'ailleurs, le chrétien ne demande pas seulement pour lui, mais il demande aussi pour les autres, et cette prière alors s'appelle intercession. Prière dont le Christ nous a donné un exemple inimitable. Quant au repentir du chrétien, ce n'est plus seulement la prise de conscience de son impureté foncière en face de l'éblouissante pureté de Dieu, mais c'est la douleur de n'avoir pas répondu à l'amour par l'amour. Et c'est en même temps la certitude du pardon. Quand le chrétien a lu le prophète Jérémie, il ne peut pas ne pas se souvenir d'une confidence dont j'allais dire qu'elle a échappé au cœur de Dieu. Écoutez ce qu'il disait par son prophète. « Mon peuple est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui, que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse. » Cet amour filial comporte une impatience grandissante de posséder ce Dieu, notre bien suprême. Comme le cerf soupire après la source d'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Et je crois que l'on peut dire que le désir de Dieu, c'est le plus profond ressort de la vie du chrétien. Ceci explique d'ailleurs que pour le chrétien, la mort lui apparaît comme une porte qui s'ouvre. Saint Paul disait « Mourir m'est un gain ». Qu'il est riche, le cœur du chrétien, en qui, au fil des années, toutes ses attitudes, peu à peu, se sont éveillées et se sont structurées. L'adoration, la dépendance, la crainte révérentielle, le repentir, l'admiration, la louange, l'amour filial, la confiance, l'abandon. Et quelle est riche et vraie la prière chrétienne qui sait faire place à ces différentes attitudes en face des différents aspects du visage de Dieu. Et l'on comprend l'impatience des vrais fils de Dieu de se dépenser pour que le nom de leur Père soit sanctifié, pour que son règne vienne.